Vous écoutez France Culture.
Vous écoutez France Culture, 20h30. Tout de suite, le feuilleton.
Bonsoir, toute cette semaine, en direct du studio 111 de la Maison de la Radio, un feuilleton dédié à la Première Guerre mondiale à travers deux grandes voix de la littérature qui en furent les acteurs et les témoins de part et d'autre de la ligne de front. Après la lecture d'extraits de Ceux de 14 de Maurice Genevoix, lundi, mardi et mercredi, et pour lui donner la réplique ce soir et demain soir, le témoignage d'un autre écrivain majeur. Observation du camp adverse cette fois, des extraits des carnets de guerre que Ernst Jünger a tenus entre 1914 et 1918 nous éclairent sur la vie des soldats allemands. Ces carnets lui serviront après coup à écrire un des tout premiers témoignages littéraires sur la Grande Guerre, Orage d'acier, qui sera publié en 1920. Quand la guerre éclate, Ernst Jünger a 19 ans. Tout de suite et en direct, écoutons-le, porté par la voix d'Alexandre Pavlov.
Alexandre Pavlov et Dominique Massa, piano préparé et musique électroacoustique. Les carnets de guerre 14-18 d'Ernst Jünger. Nous menons ici une vie étrange.
Janvier 1915. À 7 heures, distribution de soupe au poids à Sedan. Morale au beau fixe. La région a subi la guerre. Maisons détruites, pont dynamité sur lequel on passe au ralenti, gerbes moissonnées pourrissant dans les champs. De nombreuses maisons sont abandonnées, fenêtres et portes grandes ouvertes. Des soldats de la territoriale tout au long du parcours. Les champs retournés à l'état sauvage offrent un triste spectacle. Partout, des moissonneuses rouillées. Nous sommes descendus en gare de Bazancourt. L'artillerie grondait au loin. Nous avons vu tout au fond des petits nuages de shrapnel qui se sont dissipés en vapeur blanche. Nous avons parcouru encore quelques kilomètres en train. Nous sommes descendus pour gagner Aurainville, à pied. Nous y avons passé la nuit dans une immense grange, en écoutant le grondement de la canonnade. Janvier. Le lendemain matin, nous avons été répartis. J'ai été affecté à la 9e compagnie. Nous nous sommes un peu reposés dans l'école du village. Il y eut soudain un grand fracas assez près de nous. De toutes les maisons, des soldats sortirent dans la rue en courant. Puis, par trois fois, un sifflement passa au ras de nos têtes. Tout le monde s'est esclaffé et personne ne s'est sauvé. Mais chacun a courbé la tête. Quelques instants plus tard, on apportait les premiers blessés, allongés sur des toiles de tente. Le premier que je vis était inondé de sang et poussait des cris rauques et étouffés. Au secours, au secours. Le second avait une jambe qui pendait, à peine rattachée à la cuisse. 9 hommes avaient été tués, dont le chef de musique. Nous sommes restés toute la journée dans le village et le soir, nous nous sommes mis en marche pour notre position de combat. Nous avons traversé en chemin un village entièrement bombardé avant d'arriver au lieu dit la Faisanderie, une ferme qui héberge les hommes de réserve pour les tranchées du front. On a marché 20 bonnes minutes par de longs boyaux de liaison. À droite et à gauche s'étendaient des champs dévastés par les obus, un entonnoir à côté de l'autre. Nous étions enfin arrivés à la première ligne de tranchées. Janvier. Au matin, je suis allé chercher le café apporté par la roulante qui était passée à la Faisanderie. Nous avons dormi, ensuite, sur la position principale, une tranchée creusée derrière la première ligne. La tranchée située devant nous était exposée à un feu nourri. Les obus éclataient à 50, 100 mètres en avant de notre position. Je ne me laissais pas troubler dans mon sommeil. Au soir, nous avons de nouveau occupé notre position de tir. Derrière nous, le bois des obus reçut quelques coups au but de l'artillerie de fort. Nous voyions les étincelles jaillir des fusées d'obus. Un officier remplaçant, un sous-officier et un caporal se sont portés en avant avec des fusils lance-grenades. Lorsqu'ils ont tiré la première, elle a explosé à la bouche du fusil et les a blessés tous les trois. Le sous-officier très grièvement. Janvier. J'écris ceci dans un trou individuel situé très en avant, à 150 mètres environ de la tranchée ennemie. De temps en temps, un projectile ennemi ou ami passe en sifflant tout près de nous. Malheureusement, nous ne voyons pas de Françoise ici, sinon nous pourrions nous aussi faire parler la poudre. Les pièces de fort tirent sur Orainville et notre artillerie sur un village à flanc de colline, d'où monte déjà une fumée noire. À 80 mètres de nous, tout au plus, gisent 6 ou 7 Français dont la mort date déjà d'environ 2 mois. Le corps, étendu en pantalon rouge et en manteau bleu, offre un aspect étrange. Avec mes jumelles, j'observe la couleur cendreuse, presque noire, du visage en décomposition de l'un d'eux. Je suis très curieux de voir ce que donne un tir de shrapnel. En général, la guerre m'avait semblé d'abord plus effrayante qu'elle ne l'est en réalité. La vue des corps déchiquetés par les obus m'a laissé parfaitement froid, de même que toutes ces pétarades, bien que j'ai entendu plusieurs fois les balles chanter très près. En général, ce qui m'a paru le plus désagréable, ce sont le froid et l'humidité de nos trous creusés dans la terre. Tandis que j'écris ceci, je suis allongé sous un abri avec un peu de paille humide. Il pleut et la tranchée est déjà remplie de quelques centimètres d'eau. On est ainsi trempé à longueur de journée, jamais dans un espace clos. Je suis curieux de savoir quand vont se déclencher les rhumatismes inévitables. Espérons que je ne connaîtrai pas pire. Janvier. Ici, nous recevons une fois par jour, le soir, de la nourriture chaude et la moitié ou le tiers d'un pain de munitions. La lichette de lard ou de saindoux que nous recevons en rabiot est une espèce d'aumône. L'État ne peut-il donc pas nous attribuer la même ration qu'à nos camarades restés en Allemagne? Ou bien est-ce que personne ne s'en rend compte ici? Ce matin, un homme de la section de mitrailleuses a reçu une balle dans la tête. La balle est passée par l'œilleton de visée de son bouclier de protection en acier. Quand ça doit vous arriver, ça vous arrive. Le soir, nous sommes remontés aux positions de combat. Selon les nouveaux ordres du régiment, chaque homme n'a le droit de dormir que 2 heures. Au matin, une fois debout, je sentais mes yeux se fermer et mes genoux se dérober sous moi. Il pleuvait, il ventait. Nous étions trempés jusqu'aux os. Janvier 1915. Le soir, monté en première ligne. On nous a mis dans le trou d'obus, en sentinelle comme sous-officier. Nous avions alternativement 1 heure de garde et 1 heure de sommeil. Très agréable, donc. J'ai toujours pris la garde avec Priebke. Le trou d'obus est un trou creusé par un obus et aménagé en poste de sentinelle. On se trouve assez près de l'ennemi et ça tiraille beaucoup. à 3 mètres de notre abri. Un pied chaussé d'un soulier sort de terre et dégage pas mal de puanteur. Au moins, cette nuit, le temps était sec. 17 janvier. Passer la journée dans la tranchée. La nuit, à nouveau, dans le trou d'obus. 18 janvier. Aujourd'hui, rester allongé dans l'abri, derrière la tranchée. J'ai reçu la première carte de chez moi. Le soir, nous sommes allés occuper la position de réserve. J'ai reçu mon premier paquet de la maison et de grand-maman. 28 janvier. Les 2 dernières nuits ont été très claires et glaciales. J'estime la température à 5 ou 6 degrés en dessous de zéro, sinon pire. En tout cas, ça vaut nettement mieux que la pluie. Le café gelait dans les bouteillons et la bouffe dans les gamelles. Mon ami Orion brillait d'un éclat merveilleux. Une fiasque de rhum et une autre de cognac se sont révélées d'un excellent usage. Nous versions de l'alcool dans des cuillères avec du sucre fin. C'était un vrai délice. 30 janvier. Nous étions aujourd'hui en position au bout de l'aile gauche de nos tranchées. Durant la nuit, montant la garde à côté des canons de campagne, nous avons discuté avec les artilleurs de manière fort sympathique. Je suis allé 3 fois chercher de l'eau au moulin bombardé, dans le creux où coule le ruisseau. Inquiétant tableau d'atmosphère. À la Buckline. 'Enchevêtrement d'aulnes abattues. Dans l'eau, une barque à demi disloquée. Le murmure de l'eau. Partout de profonds trous d'obus. Une image médiévale de dévastation. Le lendemain matin, chez les artilleurs, nous nous sommes préparés du chocolat, du thé et de la soupe aux écrevisses. Mars 1915. Pris par le service de garnison à l'arrière du front, au bout d'à peine 7 semaines, et aussi bizarre que cela puisse paraître, j'aspire à retrouver la tranchée, et surtout un petit peu de danger. Nos gars ont maintenant laissé la fameuse tempête derrière eux. Ma compagnie a perdu presque la moitié de ses effectifs. Qu'est-ce que Pripke peut bien devenir ? Nous menons ici une vie étrange. Aujourd'hui, par exemple, le capitaine s'est amené devant la garde complètement saoul, en criant « Au secours !» Lorsque la garde est sortie sans trop savoir quoi faire, il a condamné les gars à 3 jours de trou. Puis il s'est mis en tête de déclencher une alerte incendie. Les officiers qui venaient de se saouler la gueule avec lui ont tout simplement omis de se présenter, ce qui a provoqué un bordel terrible. Puis le capitaine s'est lancé dans un discours tonitruant contre la méchanceté de la population et nous a informé qu'il entendait la condamner à 300 marks d'amende. Par ailleurs, les grandes soulographies générales sont fréquentes et chaque section ingurgite un tonneau à elle seule. Tout le patelin sombre ensuite dans le cirage. Récemment, quelques chevaliers de la Bombance, dont moi-même, s'employaient à lamper un tonneau ou ce qu'il en restait. Surgit alors le capitaine en compagnie de quelques officiers et il s'ensuivit un colossal échange de cochonneries tel qu'aucune taverne à matelots de Hambourg n'en a jamais entendu. À la fin, tout le monde tanguait, bras dessus, bras dessous, d'un bout à l'autre du patelin. Nous avons de nouveau roupillé dans un grenier à foin. Je me réveillais au moment où un aviateur lançait 3 bombes sur Pagny. Nous étions d'ailleurs survolés dans un nombre colossal d'avions sur lesquels on ne tirait guère. Il était enjoint impérativement de rester toujours à couvert. La position en face de nous doit s'appeler le bois des prêtres. Et il paraît que l'air y est sacrément malsain. En outre, j'ai remarqué que les troupes avaient toutes dévissé la pointe de leur casque, signe que les tranchées se trouvent très proches les unes des autres. Une fois levé, j'ai fait avec Pripke une promenade épatante sur les ruines du vieux château fort, un amas romantique de rochers de Côte d'Ombre, d'où l'on a une vue merveilleuse sur la vallée de la Moselle. Mes pensées glissaient sur les ondes de la Moselle, jusqu'à Verdun et aux mauvais jours du passé. Avril. Depuis notre hauteur, je voyais les obus d'artillerie lourdes frapper Pagny en contrebas. Apparemment, la gare était visée. Demain, il va falloir nous remettre à l'exercice. Nouvelle preuve que notre lieutenant-colonel ne semble guère connaître autre chose que le service en temps de paix. Je rigole en pensant que si les aviateurs nous avaient découvert, la première grosse bombe aurait été pour sa piole. Après avoir reçu des renforts et effectué une marche de 20 km, nous avons rejoint en train ce qui constitue à peu près notre aile gauche. Presque arrivés à Arras, nous avons subitement fait un détour et rouler tout le jour et la nuit suivante vers Tronville, entre Metz et Verdun, probablement dans le but d'égarer les espions, car nous nous déplacions en formation considérable. Nous sommes sûrement cantonnés ici en vue d'une éventuelle offensive. La région offre un aspect lugubre et abandonné. Lorsqu'avec quelques autres, je réclamais de la paille à étaler sur le sol, une vieille femme arriva en pleurant. « Ne prenez pas toute notre paille. » Ce à quoi, d'un cœur pas spécialement tendre, je répliquais. « C'est la guerre. Il faut nous coucher. » On nous avait mis en garde contre les aviateurs. Et effectivement, il en survint bientôt quelques-uns qui se firent tirer dessus. Avec Pripke, je grimpais au sommet du clocher. Il y avait au cimetière quelques sépultures de soldats allemands tombés en 70-71, à Mars-la-Tour-Vionville. Les canons tonnent assez près et à intervalles rapprochés. Sur la crête en face de nous, nous voyions les obus et les shrapnels éclater, mais ils étaient très loin. L'après-midi, nous avons visité les tombes des guerriers de 70-71. Toute la région est parsemée de tombes et de monuments. Nous avons franchi la frontière entre Brouville et Vionville en poussant un triple hurrah. Le poteau frontière allemand était encore debout. Le poteau français gisait en morceaux sur le sol. La nuit et le jour suivant, j'ai été de garde. J'ai parlé avec un couple de Français. Ils m'ont raconté qu'après la déclaration de guerre, les villages français des alentours ont été pris sous le feu des forts de Metz le 8 août. Les premières troupes étaient arrivées et depuis ce temps, il y avait toujours eu des soldats dans l'endroit. Le vieux avait déjà vécu la guerre de 70 dans ce village. Mais il trouvait que cela avait été 10 fois moins pire. Au cimetière, je vis une tombe éventrée par les obus. Les ossements étaient dispersés à côté d'elle. Thank you. 18 avril. Un merveilleux soleil brillait aujourd'hui sur la vallée si romantique de la Moselle. Hier soir, nous avions été mis en état d'alerte afin de monter éventuellement sur Thiaucourt. Au matin pourtant, je me suis encore réveillé dans mon vieux coucher. Nous sommes descendus jusqu'au ruisseau pour nous laver. Dans la matinée, nous sommes montés sur la colline la plus proche. Il y avait Honig, Kohl, Priebke, Brinkmann et moi. Soudain, je vis un serpent d'un brun sombre que j'identifiais immédiatement comme une vipère péliade. Je tapais dans sa direction. Par malheur, elle disparut trop vite. C'était la première vipère péliade que j'ai pu voir de mes yeux avec certitude. Il y a également ici des vipères aspic, à ce que m'ont raconté deux paysans. Des bestioles très dangereuses. Avril 1915. À 9h du soir, nous sommes partis à pied dans une direction inconnue. Nous avons fait une marche de plus de 30 km, qui s'est terminée dans une forêt devant Verdun. Nous sommes arrivés à 6h du matin et avons dressé les tentes. Avril. Nous avons oublié toute la nuit sous notre tente. Dehors, il pleuvait, mais dedans, nous étions bien confortablement couchés au chaud. Le lendemain matin, j'ai jeté aux latrines ma vieille veste en laine, car elle hébergeait vraiment trop de pensionnaires. Soudain, il m'est revenu en tête que j'avais rêvé d'un squelette pendant la nuit. La chose me parut drôle, et je la racontai ensuite à Priebke, qui remarqua avec humour qu'il espérait bien qu'il s'agissait d'un squelette français.
C'était Maurice Genevoix, Ernst Junger, Regard croisé sur la Grande Guerre. Feuilleton en direct du studio 111 de la Maison de la Radio. Aujourd'hui, les carnets de guerre 14-18 d'Ernst Junger. Nous menons ici une vie étrange. Extrait choisi par Jean Torrent. Lu par Alexandre Pavlov. Piano préparé et musique électroacoustique Dominique Massa. Conseillère littéraire Emmanuel Chevrière. Prise de son Olivier Dupré, Sébastien Labarre. Assistante à la réalisation, Yaël Mandelbaum. Réalisation, Claude Guerre. Les carnets de guerre 14-18 d'Ernst Junger, dans la traduction de Julien Hervier, sont publiés aux éditions Christian Bourgois.
Vous pouvez réécouter et podcaster le feuilleton sur le site fiction.franceculture.fr.